France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebien.
Un jour dans le monde, en Géorgie ce soir.
Moi, président de la Géorgie, m'engage devant Dieu et ma nation à défendre la constitution géorgienne, l'indépendance, l'unité et l'indivisibilité de mon pays.
Je reste la seule présidente légitime. J'emporte avec moi le drapeau. Et j'emporte avec moi votre confiance. Vous l'entendez, ils sont deux à se revendiquer président et l'un a pris la place de l'autre hier. L'ex-footballeur Mikhaïl Kavelashvili, pro-russe, a prêté serment hier matin. Une investiture à huis clos au Parlement sans aucun drapeau européen dans la salle. Au même moment, la présidente Salomé Zourabichvili, pro-européenne, contrainte à laisser sa place, prenait un bain de foule au milieu des manifestants, proclamant que la victoire est proche et qu'elle est la seule présidente légitime. Deux présidents pour deux avenirs aux antipodes. Depuis l'automne, la Géorgie, ce petit pays montagneux de 3 700 000 habitants, ex-république soviétique du Caucase, est prise en étau entre deux influences. La population est très majoritairement pro-européenne, mais l'influence de Moscou est poussée par le parti au pouvoir rêve géorgien. La Géorgie est donc à un moment crucial de son histoire. Alors, pour en parler avec nous ce soir, nous sommes en ligne avec Marie Mandras. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à Sciences Po, auteur de La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, publié chez Kalman Levy. Et puis nous sommes aussi en direct de Tbilissi avec le correspondant d'RFI. Bonsoir Julien Chavannes.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors une première question pour vous Marie Mandras. Salomé Zourabichvili, ancienne diplomate française, présidente depuis 2018, avait promis de rester dans son bureau présidentiel tant que de nouvelles élections législatives n'auraient pas lieu. Elle considère que l'élection de son successeur n'est pas légitime. Finalement, elle est sortie. Est-ce un recul ?
Pas du tout. J'ai parlé encore avec Salomé Zourabichvili il y a une heure au téléphone. Il n'y a pas passation de pouvoir. Monsieur Kavelashvili n'est pas président de la Géorgie. Aucun pays démocratique ne le reconnaîtra. Il n'y a pas de parlement en Géorgie, puisque les élections n'ont pas été honnêtes et que seuls des représentants du clan au pouvoir ont pris leur siège dans la maison du parlement. Donc Salomé Zourabichvili reste la seule représentante élue du peuple géorgien, puisque elle a été élue au suffrage universel en 2018. Elle a choisi de quitter les lieux donc de la présidence, oui. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'elle a quitté ses responsabilités de présidente. Elle ne voulait tout simplement pas que le régime, qui est devenu de plus en plus brutal, prennent d'assaut le palais, et voilà. Donc la situation, il ne faut pas dire qu'il y a deux présidents géorgiens.
Mais comment, alors
Kavelashvili n'est pas un président légalement et légitimement choisi, hein, il a été choisi par un peu plus de 200 personnes.
Mais comment,
qui sont aux
comment va-t-elle contre-attaquer ? C'est une figure légitime, certes, mais sans pouvoir concret aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, il y a d'un côté un régime qui est vraiment un clan et donc qui a le pouvoir de la force essentiellement, et de l'autre côté, nous avons donc une société géorgienne dont, sans aucun doute, les trois quarts sont extrêmement inquiets de la dérive dictatoriale du régime, des répressions qui sont absolument terribles, et aussi, on ne le dit pas assez, de la crise économique et financière dans laquelle s'enfonce le pays. Donc, Salomé Zourabichvili, avec aussi les leaders des différents partis politiques d'opposition, elle représente une opposition, d'abord et avant tout, à un régime imposteur et brutal.
Mais vous voulez dire que le nouveau président n'a pas de partisans aujourd'hui ?
Mais ce, il
c'est
n'a
un
pas
homme
été
seul
élu.
Qui a été poussé vers le pouvoir.
Il n'y a plus d'institution en Géorgie. Il y a plus, nous ne reconnaissons ni le Parlement.
Vous ne les reconnaissez pas, mais lui, il a quand même été désigné président, même si c'est anticonstitutionnel.
Il a été désigné par un clan qui n'a aucune légalité et aucune légitimité, et dans laquelle, de toute façon, la population n'a pas son mot à dire, puisque les élections du 26 octobre n'ont pas été honnêtes, et donc ne sont non plus pas reconnues par une très grande partie des Géorgiens. Et je voudrais ajouter à ceci que nous faisons parfois un petit contresens en disant que l'opposition et la société géorgienne sont pro-européennes et que le régime au pouvoir est pro-russe. D'abord et avant tout, les Géorgiens, dans leur grande majorité, sont contre la dictature. Ils veulent l'état de droit, ils veulent la démocratie, ils veulent l'ouverture des frontières et ils veulent être capables de choisir leurs partenaires économiques et leurs alliés.
Alors, les manifestations sont quotidiennes depuis l'automne, on en parlait. Julien Chavanne, puisque vous êtes en direct de Tbilissi, la capitale géorgienne, est-ce qu'il y a eu encore de la contestation hier soir ou est-ce plutôt calme aujourd'hui ?
Alors hier soir, oui, d'ailleurs comme tous les soirs. Mais hier, les manifestants avaient sorti un carton rouge et des sifflets. Vous savez, allusion au passé de footballeur du nouveau président désigné. Il y a un nouveau rassemblement en ce moment même devant le Parlement. Mais ça reste calme, hein, comme la plupart des soirées ces dernières semaines. Il faut imaginer que les gens y vont pour rencontrer des amis, boire un thé, se balader en famille sur cette grande avenue Roustavéli sous les décorations de Noël. Aller manifester le soir, c'est devenu une routine ici pour une partie des Géorgiens. Ça fait 33 jours que ça dure, malgré des centaines d'arrestations, des tabassages au début du mois. Il y a plus ou moins d'intensité selon les jours. Parfois, ça peut être spectaculaire. J'ai en tête la chaîne humaine qui a été organisée samedi dans la ville. Et s'il n'y a pas 100 000 personnes à chaque fois, tous les jours, devant le Parlement, c'est quand même comme si les Champs-Élysées à Paris étaient fermées à la circulation tous les soirs. Sur ce registre de rassemblement, il y a une grande réunion demain pour la soirée du réveillon organisée en présence de Salomé Zurabichvili.
Alors on va revenir sur ces derniers mois depuis les élections législatives. C'était le 26 octobre dernier, la victoire du parti au pouvoir Rêve géorgien dénoncée par l'opposition et les observateurs sur place. Le parti de l'oligarque milliardaire Bidzini Ivanishvili. C'est une falsification, hein, disait la présidente Marie Mandras.
Je pense que nous pourrions aussi revoir un petit peu notre vocabulaire. Il n'y a pas eu de victoire du rêve géorgien. Ils n'ont pas remporté l'élection. Ils se sont octroyés des résultats où leur parti, qui est plus un clan qu'un parti politique, a revendiqué d'avoir 54% des suffrages pour occuper les deux tiers du Parlement. Donc déjà, non, il n'y a pas eu de victoire électorale. Nous sommes dans une situation de coups anticonstitutionnels depuis des mois en Géorgie. Et donc, la principale revendication des Géorgiens, c'est que, au vu de tous les rapports de fraude, en plus de campagnes payées par le régime pendant des mois avant, etc., que de nouvelles élections législatives soient organisées.
Pour vous, Marie Mandras, c'est une dérive autoritaire. Il ne faut pas y voir l'ombre de Vladimir Poutine ?
C'est bien sûr que si, ces gens-là. Voilà. Le clan, non mais ce n'est pas l'ombre de Vladimir Poutine. La Géorgie,
Le fait d'avoir suspendu le processus d'adhésion à l'Europe durant 4 ans,
Non, c'est pas. Enfin, c'est-à-dire que ce régime est en place depuis 2012. Le milliardaire qui est à la tête de tout ça a fait sa fortune en Russie et fonctionne avec les réseaux russes, dont des réseaux criminels. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour posséder la Géorgie, cet homme et son entourage ont fonctionné aussi avec des réseaux russes. Mais pour eux, ce qui est important, c'est pas de dépendre de Moscou. Pour eux, ce qui est important, ils ont très peur de perdre le pouvoir et donc de perdre toute leur fortune. Leur problème, c'est de rester au pouvoir, quoi qu'il arrive. Ils ont peur.
Donc c'est un prétexte, l'histoire des pro-européens ?
Non, c'est pas du tout un prétexte. Je dirais que la lecture, elle se fait en deux temps. Pour les Géorgiens, l'urgence, c'est une alternance au pouvoir, pour justement ne plus être tenus sous l'emprise de ce clan. Donc d'avoir une alternance, d'avoir des élections libres et de pouvoir enfin recommencer à bâtir un état de droit, une société démocratique qui leur permette de pouvoir s'européaniser et reprendre le processus d'accession. Mais la première urgence, c'est l'alternance au pouvoir.
Julien Chavannes, je reviens vers vous, puisque vous êtes à Tbilissi. Le nouveau président apparaît comme un pantin. Qu'est-ce qu'on sait de son programme? Qu'est-ce qu'il va faire?
Alors, on sait déjà ce qu'il a fait, hein, et ses premières décisions en disent long. À peine installé dans son nouveau fauteuil, il a promulgué en priorité des lois répressives contre les manifestants. Si vous collez une affiche dans les rues ici, eh bien, c'est 300 euros d'amende. Si vous utilisez un laser pendant les manifestations, c'est près de 700 euros. Hein. Il faut savoir que le salaire moyen ici, c'est 300-400 euros. Les feux d'artifice sont interdits, le visage masqué aussi. Les pouvoirs de la police pour les arrestations, les gardes à vue sont étendus. Les licenciements dans la fonction publique sont facilités. Tout ça sont les signes quand même d'un pouvoir autoritaire.
La répression vous avez la même analyse que Marie Mandras. On est sur une dérive autoritaire du régime.
Oui, oui, absolument. Et c'est ce qui inquiète, largement sur ce point, les manifestants ici. Évidemment, ils veulent l'Europe, mais ils veulent aussi garder la main sur leur pays. Et il est en train de leur échapper, de basculer. Il y a ces jeunes qui veulent évidemment de l'Europe, qui veulent un pays stable où ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais il y a aussi des personnes âgées. Moi, j'ai rencontré, il y avait une manifestation des grands-parents la semaine dernière, parce qu'ils thématisent un peu les rassemblements, des cheveux blancs. Certains avaient connu l'indépendance du pays, s'étaient battus pour ça. C'était il y a 33 ans, c'est beaucoup et très peu à la fois. Ça résonne beaucoup pour ces gens-là.
Et est-ce que les manifestants parlent de l'influence de Poutine ou pas ?
Oui, oui, absolument, c'est clair. Enfin, on va revenir toujours à la personnalité centrale qu'on voit peu, mais qui est là, c'est Bidzina Ivanishvili, milliardaire. Oui, ce serait, je reprends la terminologie de l'opposition, l'homme de Vladimir Poutine ici, le véritable homme fort. Et il y a quelque chose qui ne trompe pas. Emmanuel Macron, quand il doit appeler quelqu'un ici, il appelle qui ? Il appelle le milliardaire Bidzina Ivanishvili, pas le Premier ministre, pas le président désigné. Ça en dit long sur qui tient vraiment les rênes du pays ici.
Marie Mandras, maintenant, que va devenir la contestation ? Puisque l'urgence, on l'a bien compris, c'est d'abord de se débarrasser de ce pouvoir dictatorial.
Oui, alors, il me semble qu'il y a deux politiques qui doivent être mises en œuvre au même moment. Une politique en Géorgie qui est celle de la contestation permanente. Julien Chavannes l'a très bien rappelé, il faut continuer à occuper la place publique, tout en évitant des répressions trop massives. Donc c'est aussi pour cela que Salomé Zourabichvili, par exemple, hier a demandé à ce qu'il n'y ait pas de manifestations particulières. Et d'un autre côté, il faut que nous ayons, nous, les démocraties, les pays européens, les États-Unis, le Canada, ayons maintenant une politique beaucoup plus claire, où nous n'avons pas reconnu les élections du 26 octobre, nous n'avons plus aucun contact avec ceux qui prétendent représenter le gouvernement, le Parlement. Nous devons donc continuer, et c'est ce que Salomé Zourabichvili m'a rappelé tout à l'heure au téléphone, il faut continuer de les ignorer.
Est-ce que la position de l'Union européenne vous paraît claire ou pas ? On parle de sanctions, les États-Unis envisagent des sanctions, le Royaume-Uni aussi. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'au fond, les sanctions, c'est toujours assez inefficace ?
Non, les sanctions sont efficaces. Elles sont d'autant plus efficaces que, comme en Russie, par exemple, elles touchent le second cercle du pouvoir, c'est-à-dire les élites professionnelles qui sont évidemment de plus en plus inquiètes et qui ont toutes à perdre si ce régime continue de tirer le pays vers le fond. Donc nous devons faire beaucoup plus, appliquer beaucoup plus de sanctions, mais surtout avoir une politique d'engagement derrière Salomé Zourabichvili et derrière les démocrates géorgiens pour les aider à pouvoir imposer au clan au pouvoir la tenue de nouvelles élections et si possible par une transition pacifique.
Merci beaucoup, merci à vous deux Marie Mandras et merci à vous Julien Chavannes, correspondant d'RFI à Tbilissi en Géorgie. La suite, ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde au fin fond de l'Australie, dans une région de plus en plus aride où le peuple de la rivière n'a plus d'eau. Et pour aller jusqu'à 19h, pardon, Kevin Dufraîche, sous les radars.
Au Royaume-Uni, c'est la crise pour les pubs, plus de 400 fermetures en 2024.
Virginie Pierronon dans Le Monde à 18h50.
Cacher cette fenêtre par laquelle je ne saurais vous voir, en Afghanistan, les talibans poursuivent leur guerre contre les femmes.
Et Cyril Sauvageau, la BO du Monde donne dans le rap américain.
Oui, c'est ça, avec des stars du rap aux États-Unis accusées d'avoir profité des fonds de soutien aux artistes pendant le Covid pour continuer à mener la grande vie. Jet privé et vêtements de luxe.
C'est pas joli joli, hein. Allez, à tout de suite, restez avec nous. Quand des passionnés de hip-hop, cette fois, jouent du jazz, voici les Canadiens de Bad Bad Not Good, Poeira Cosmica, Poussière Cosmique avec le chanteur brésilien Tim Bernardes. C'est doux et chaud et c'est dans la playlist de France Inter. Australie, le continent le plus aride du monde. Premier reportage d'une série que nous rediffusons et qui nous fera parcourir le pays toute la semaine. Continent le plus aride, donc, ce qui explique que la plus grosse part de son agriculture se concentre autour de l'un des deux seuls bassins hydrographiques du continent, les rivières Murray-Darling et leurs multiples affluents. Sauf que la sécheresse a fait baisser drastiquement les niveaux d'eau et que les rivières sont surexploitées, polluées en amont par des producteurs de coton. En aval, les éleveurs et les communautés indigènes sont dans une situation de stress hydrique de plus en plus intenable. Alors nous allons traverser ensemble Wilcannia, une petite ville de Nouvelle-Galles du Sud à 950 km à l'ouest de Sydney, une ville majoritairement aborigène où l'eau en bouteille coûte plus cher que le diesel. Le reste, c'est Grégory Pless qui raconte avec Léo Rousset.
À Wilcannia, on ne quitte jamais complètement des yeux le niveau de la rivière Murray-Darling qui la traverse. Pour Brendan Adams, un leader de la communauté aborigène locale, elle est un sujet d'inquiétude permanent.
Même s'il y a de l'eau, elle n'arrive qu'au niveau du genou, alors qu'il devrait y avoir 8 mètres de profondeur. Et en plus, l'eau n'a pas sa couleur naturelle. Ça me rend triste qu'elle ne soit pas saine.
L'eau de la rivière, en effet, n'est pas potable. La station d'épuration locale a récemment été remise en état, Mais l'eau qui sort du robinet suscite toujours la méfiance. Ainsi, Polly et Brandon, comme une bonne partie des habitants, préfèrent ne pas la boire.
L'eau est soi-disant potable, mais elle est vraiment pas terrible.
Elle a un goût de chlore, cette eau.
C'est la même eau qu'on utilise pour boire, pour se laver, pour cuisiner. Mais on n'a pas le choix, il n'y a rien d'autre, à moins de dépenser une fortune pour de l'eau en bouteille.
Et de fait, dans le seul commerce de la ville, l'eau en bouteille coûte 6 fois plus cher qu'à Sydney.
Les bouteilles d'eau minérale sont bien vendues, $6.20.
Oui, oui.
Mais le Coca-Cola est moins cher.
Oui, oui, c'est... Oui.
Pour la population aborigène locale, ça n'est pas qu'une affaire d'eau potable. Leur nom, les Barkindji, signifie « le peuple de la rivière », qui dérive lui-même du nom indigène de ce cours d'eau, la Barka. Ils entretiennent avec elle un lien sacré, voire filial, d'après Badger Bates, un ancien respecté de la communauté.
J'ai 3 mères. Ma maman m'a mis au monde, ma grand-mère s'est occupée de moi et la rivière me nourrit. Aujourd'hui, mes 2 premières mères sont mortes, mais la rivière Barka est toujours là et je me bats pour sa survie.
Et il en va également de la survie des Barkindji eux-mêmes. Pour les hommes, l'espérance de vie est de seulement 37 ans et de 42 ans pour les femmes, la communauté étant ravagée par des vagues de suicides. Des troubles de santé mentale directement liés à l'état de la rivière, selon Brandon Adams.
Quand il n'y a plus d'eau, c'est quand arrive la dépression, voire les pensées suicidaires. Nos jeunes pensent à s'automutiler et ne pensent plus qu'à ce qu'il y a de pire dans leur vie.
Plus étonnant encore, quand le niveau de la rivière baisse, celui de la délinquance augmente. C'est pourtant une évidence pour Jenny Swaits, la présidente du conseil aborigène local.
Pêcher, camper au bord de la rivière, c'est central dans leur vie. Quand vous êtes en mesure de vivre décemment, vous êtes moins susceptible de commettre des délits.
La lutte pour une eau propre et abondante n'a pourtant pas toujours existé à Wilcannia et dans les environs. Ce qui a tout changé, c'est l'émergence il y a une dizaine d'années de fermes de coton à des centaines de kilomètres plus en aval qui pompent chaque année 2500 milliards de litres d'eau et rejettent dans la rivière des polluants qui ravagent son écosystème. À Tollarno Station, un élevage de moutons aussi grand que le département des Yvelines situé à une centaine de kilomètres de Wilcannia, on a dû installer un système de filtration pour permettre aux bêtes de boire l'eau de la rivière.
C'est un filtre qu'on met sur la pompe parce que l'eau de la rivière est de très mauvaise qualité. Il faut la traiter pour protéger la santé de nos moutons et de nos vaches.
Le père de James, Robert, est un critique virulent du lobby du coton et de la gestion de l'eau par les autorités.
La rivière Darling Barka est la seule rivière au monde où le lobby du coton est parvenu à acheter les politiciens et à prendre le contrôle effectif du cours d'eau. Aucune autre rivière au monde n'est détruite avec une telle application. Et si la rivière meurt, tout le reste mourra aussi.
De fait, l'an dernier, des millions de poissons ont été retrouvés morts à la surface de la rivière, asphyxiés par des algues dont la prolifération a été rendue possible par le dérèglement de l'écosystème. Mais après des années de gestion calamiteuse, le gouvernement semble enfin décidé à réformer un système qui favorise très largement les grands irrigateurs au détriment de l'environnement et de la santé des populations locales.
Grégory Placelero-Roussel pour le reportage, merci. L'actualité passée sous les radars à 18h44, mais qui n'a pas échappé à Kevin Dufraîche. Nous sommes d'abord en Amérique du Sud, touchés par des vagues.
Oui, le Pérou, l'Équateur et le Chili subissent une houle assez inhabituelle. Des vagues jusqu'à 4 mètres qui touchent les côtes. Alors ça peut sembler relativement modeste, sauf que les littoraux de ces pays ne sont pas du tout adaptés pour résister à ce type de phénomène. Résultat d'un vent persistant sur les eaux du Pacifique qui, même à des milliers de kilomètres des côtes, finit par provoquer cette houle. Il y a déjà au moins 3 morts emportés par ces vagues, 2 en Équateur, 1 au Chili. Les images sont assez impressionnantes. Surtout au Pérou, on voit des dizaines de bateaux de pêche ballottés par les flots qui parfois chavirent. D'ailleurs, en raison de cet événement extrême, comme l'ont baptisé les autorités, plusieurs dizaines de pêcheurs sont bloqués en mer depuis plusieurs jours. Ils ne peuvent pas rentrer, c'est trop dangereux. Certains commencent à manquer d'eau et de nourriture. Au Pérou, les 3/4 des ports sont fermés. Certaines plages sont interdites d'accès. La mer inonde une partie des côtes. Beaucoup de commerces ont été endommagés et ça devrait durer jusqu'à mercredi.
Nous voici au Royaume-Uni où un emblème de la culture britannique est en souffrance.
Oui, sale temps pour les pubs. D'après les chiffres officiels, il y a désormais moins de 39 000 établissements en Angleterre et au Pays de Galles. C'est une première, ce chiffre n'a jamais été aussi bas. 412 pubs ont fermé définitivement en 2024. Il n'y en avait pas eu autant depuis 2021, c'était les conséquences du Covid. Bien sûr, c'est à Londres que la baisse est la plus importante, avec 55 pubs en moins sur l'année. C'est lié à une augmentation des charges, notamment les loyers, et à une baisse de la consommation. Le pays est en récession et ça risque de s'aggraver, d'après les professionnels du secteur, parce qu'en avril vont entrer en vigueur des mesures du nouveau budget, notamment l'augmentation de cotisations sociales que les employeurs vont devoir payer et un allègement fiscal spécifique aux pubs qui date de la période Covid va être supprimé. D'après la British Beer and Pub Association, l'industrie des brasseries et des pubs représente plus d'un million d'emplois au Royaume-Uni.
Enfin, nous sommes au Danemark avec un champion encore traumatisé.
Oui, on parle ici du double vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard. Il est revenu pour la première fois ce week-end dans une interview à la télé danoise sur sa terrible chute le 4 avril dernier dans la descente d'un col sur le Tour du Pays Basque. Il tombe à haute vitesse. Est fini dans le ravin avec d'autres favoris. Il est gravement blessé. Je ne peux pas respirer pendant 10 secondes, raconte-t-il aux côtés de sa femme. Trina, les larmes aux yeux, puis je crache du sang. Il confie alors qu'il a pensé qu'il allait mourir à 28 ans. 7 côtes cassées, les poumons perforés, une fracture du sternum. Le cycliste a passé 12 jours en soins intensifs. Il raconte encore, quand j'étais allongé par terre, je pensais que si je survivais à ça, je mettrais fin à ma carrière. C'est finalement Trina, sa femme, qui l'a convaincu de remonter sur le vélo parce que c'est ma passion, conclut Jonas Vingegaard, qui visera évidemment une troisième victoire sur le Tour l'année prochaine face à son meilleur ennemi Tadej Pogacar.
Sky Mandé vous laisse un message à vous, Kevin.
Ah oui ?
Oui, et à tous ceux qui nous écoutent, je suis sûre que ce son vous dit quelque chose. On écoute l'original de 1972, mais c'est en 91 qu'MC Solar a samplé et sorti de la poussière cette chanson Sky Mandé, The Message. mythique groupe britannique Sky Monday doit sortir un nouvel album au mois de janvier. Le Monde à 18h50.
How dare you?
The world has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
C'est une véritable surenchère à laquelle se livre le régime des talibans contre les femmes en Afghanistan. Leur chef suprême, Virginie Pironon, vient d'ordonner de ne plus construire de fenêtres, en tout cas celles où elles pourraient apparaître.
Oui, l'Afghanistan, ce pays où après la burqa, les femmes sont littéralement emmurées vivantes. Dernière décision en effet du régime des talibans, privés donc de fenêtres, les murs des bâtiments d'habitation qui donnent sur des espaces publics, car selon leur chef, cela pourrait conduire, ouvrez les guillemets, à de l'obscénité. Cela vaut pour toutes les nouvelles constructions. Pas de fenêtres par lesquelles il serait possible de voir de près la cour, la cuisine, le puits des voisins ou tout autre endroit où des femmes pourraient se trouver. Les mairies devront surveiller strictement les chantiers de construction. Et pour le bâti existant, me direz-vous Christelle, eh bien dans les cas de vis-à-vis, les propriétaires sont invités à construire un mur ou à obstruer la vue. Le tout, je cite, et ça paraît complètement fou, pour éviter les nuisances causées aux voisins.
Depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, Virginie, il y a 3 ans et demi, les femmes ont méthodiquement été chassées de l'espace public.
À tel point que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, dénonce un apartheid de genre. Les femmes afghanes ne peuvent plus étudier au-delà de l'école primaire. Elles ne peuvent plus travailler, terminer également les promenades au parc, la fréquentation des salles de sport, des salons de beauté. Elles ne peuvent plus sortir de chez elles sans chaperon. En août dernier, une nouvelle loi intitulée « Pour la prévention du vice et la promotion de la vertu », 114 pages, 35 articles, a accentué jusqu'à l'absurde cet effacement des femmes de l'espace public. Interdiction de se parfumer, de se maquiller, de chanter, de réciter de la poésie ou encore de lire à voix haute en public. D'ailleurs, profitons-en Christelle, certaines radios et télévisions locales ont cessé de diffuser des voix féminines.
Et alors que ces femmes sont plongées dans une nuit noire, le régime des talibans se normalise pourtant petit à petit sur la scène internationale.
Oui, les talibans parient sur le temps qui joue en leur faveur. Même si leur régime n'est reconnu nulle part, ils ont entamé un long processus diplomatique pour normaliser leur présence dans l'arène mondiale. Par petites délégations, ils sont désormais invités à des forums économiques, des conférences internationales où ils apparaissent presque avenants. Et puis de nombreux pays nouent des liens avec le régime. C'est le cas des pays du Golfe Persique, de la Chine, de l'Iran, de l'Inde, du Pakistan, de la Russie, qui dit désormais voir chez les talibans un allié dans la lutte contre le terrorisme. Mais sur place, les rares voix qui s'expriment encore le cri, même à voix basse, ne reconnaissaient jamais ce régime. Continuer à faire pression. La nuit noire se lèvera, c'est ce que dit ce chant dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit deux femmes engoncées dans leur burqa bleu, assises en tailleur, et l'une d'entre elles chante, malgré les risques, pour leur liberté.
Et c'est assez déchirant. Merci Virginie Pironon. Un autre type de musique à présent, c'est la BO du Monde.
France Inter. Le 18-20.
La BO du Monde, ce soir aux États-Unis, avec ces révélations dans la presse qui font beaucoup de bruit. 5 ans après la pandémie de Covid, on découvre, Cyril Sauvageau, comment des stars du showbiz ont utilisé à leur profit les fonds de soutien alloués aux musiciens par l'État fédéral.
C'est une enquête du magazine économique Business Insider qui dévoile le pot aux roses. Des millions de dollars d'argent public engloutis sans vergogne par des superstars comme Lil Wayne. Sicilian bitch with long hair, with coconut every year, like smoking the thinnest air. I open the Lamborghini, hoping them crackers see me. Like, look at that bastard Weezy, he's a beast, he's a dog, he's the motherfucking problem. Okay, you're a goon, but what's a goon to a gobbler? Nothing. À lui seul, le rappeur de la Nouvelle-Orléans aurait touché 8 900 000 dollars au titre d'un fonds de soutien mis en place en 2020 pour sauver la filière de la musique live. Selon les témoignages recueillis par Business Insider, Lil Wayne et son entourage ont profité de cette somme pour garder le même train de vie qu'avant le Covid, c'est-à-dire open bar, 1,5 million de frais de transport en jet privé, 460 000 dollars en vêtements de luxe, etc., etc. Le rappeur a même été généreusement payé en prévision d'un concert qu'il n'a jamais donné pour le réveillon du nouvel an 2021.
Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me.
Et Lil Wayne n'est pas le seul à avoir profité des largesses de l'État fédéral. D'autres gros vendeurs comme Chris Brown ou le producteur Marshmello ont touché des sommes similaires avoisinant les 10 millions de dollars pour leur société de production et leur tourneur.
Bon, rien de répréhensible en soi, Cyril, mais la méthode pose question puisque l'objectif de ce fonds de soutien, c'était d'abord de sauver les artistes en difficulté.
Et d'ailleurs, ce dispositif s'est avéré très utile et précieux. Il a permis la sauvegarde de nombreux lieux, des petites salles de concert, des projets musicaux mis à l'arrêt par les confinements. Au total, 13 000 structures en ont bénéficié. Les stars mises en cause n'ont fait que profiter, elles aussi. Au fond, elles y avaient droit, puisque pour bénéficier du programme, il suffisait d'être une structure opérant dans le secteur du spectacle vivant, à la clé un chèque de 45% des revenus bruts de l'année précédente. Vu les sommes brassées par les tournées des superstars de la musique, on peut vite atteindre des chiffres délirants. Hey. Trips that you plan for the next whole week. Bands too long for a nigga so cheap and flex OD, sex OD. Et voilà comment le tourneur de Chris Brown en a touché 10 millions de dollars, une somme utilisée notamment pour une virée particulièrement coûteuse au Mexique. Il s'agissait officiellement d'y tourner un clip. Brown et son staff ont passé un mois sur place sans donner le moindre concert. No, baby.
Et c'est bien cela qui est reproché à Chris Brown, Lil Wayne et aux autres, avoir gardé l'essentiel de l'argent pour leur usage personnel.
Aucun mécanisme de contrôle ne permet de savoir ce qu'est devenu cet argent. On ne sait pas, par exemple, quelles sommes ont été reversées aux employés précaires qui travaillent en temps normal sur les tournées de ces artistes. En tout cas, les stars incriminées n'ont, semble-t-il, rien changé à leur mode de vie d'avant la pandémie. Vous entendez ici le groupe rock de Seattle, Alice in Chains, lui aussi mis en cause pour avoir quelque peu oublié de redistribuer à ses petites mains l'argent touché pendant le Covid. L'enquête de Business Insider fait beaucoup parler ces derniers jours aux États-Unis et ses révélations prennent une tournure politique. Pourquoi ? Bien parce qu'elle pourrait donner des arguments à la future administration Trump. Trump qui a promis pour ce retour à la Maison-Blanche, avec un certain Elon Musk aux manettes, de sabrer dans les budgets de l'État fédéral.
BO du monde, à la semaine prochaine, Cyril Sauvageau.